Pendant que nous nous retrouvons dans ce studio de Mediapart, à Paris, non loin de là, des militants d'Extinction Rebellion occupent et bloquent la place du Châtelet pour exiger des réductions immédiates et drastiques des gaz à effet de serre. Mais en même temps, à 140 km de là, à Rouen, un ciel de particules et de gaz toxiques est tombé sur la tête des habitants qui font face aujourd'hui aux conséquences de l'accident de l'usine de lubrifiant Lubrizol. Ce sont deux scènes du désastre écologique et social contemporain. La catastrophe est-elle notre nouvel horizon de vie? Faut-il la combattre? Faut-il l'admettre? Faut-il s'y habituer? Quelle sensibilité cultiver pour faire face aux destructions en cours du vivant, des solidarités et du climat? Alors, pour y réfléchir, pour partager des idées, pour conspirer ensemble pour une autre fin du monde possible, Mediapart et la revue Terrestre vous proposent une nouvelle collection d'entretiens, de débats et de rencontres, des rencontres autour de l'écologie, des questions qu'elle pose et que nous aborderons à travers des livres. Alors des livres qui sont parfois parus depuis longtemps et parfois qui viennent tout juste de sortir parce que nous sommes contre l'obsolescence programmée de tous les produits, y compris les produits éditoriaux. Alors pour ce premier épisode, nous souhaitons mettre en regard trois livres marquants par la manière dont ils se confrontent à cette idée de catastrophe. Le champignon de la fin du monde, d'Anat Singh, qui est paru en 2017, La société ingouvernable de Grégoire Chamaillou, sorti en 2018, et Devant l'effondrement d'Yves Cochet, publié tout récemment en cet automne 2019. Et pour en discuter, à mes côtés, je salue Maxime Chédin,
bonjour,
qui est chercheur en philosophie, et Pierre de Jouvencourt,
bonjour,
qui est également chercheur en philosophie, et tous les deux font partie du comité de rédaction des Terrestres. Alors, mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle collection de débats. Et on va commencer par un rapide tour de table de présentation des livres dont nous allons discuter. Maxime, est-ce que vous voulez commencer avec le livre d'Yves Cochet?
Oui, alors le livre d'Yves Cochet est paru il y a quelques semaines. Ça s'appelle donc « Devant l'effondrement, essai de collapsologie ». Et le sous-titre « Essai de collapsologie » est aussi important que le titre puisqu'il indique un peu l'horizon dans lequel s'inscrit ce livre, à savoir ce courant de la collapsologie qui est apparu en France en 2015 avec l'essai de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens « Comment tout peut s'effondrer ». Alors c'est un livre qui traite d'abord des raisons de l'effondrement qui vient, de l'effondrement qui approche, parce qu'on va le voir, on en reparlera pour Yves Cochet, l'effondrement n'est pas encore là, mais il s'agit d'un événement global qui va intervenir dans quelques années. Et les causes du déni aussi, les raisons pour lesquelles l'humanité n'est pas en mesure de se préparer et de faire ce qu'il faudrait faire pour échapper à cet effondrement. Et le cœur du livre est constitué par une espèce de une sorte d'almanach de l'effondrement de 2020 à 2050, une sorte de prophétisme qui distingue trois phases. Une première qui serait la fin du monde telle que nous le connaissons de 2020 à 2030. Bon, là, on est dans le catastrophisme le plus effroyable qu'on puisse imaginer, puisque Yves Cochet pronostique la disparition de la moitié de la population humaine d'ici 10 à 15 ans.
On va en discuter.
Voilà. Et ensuite, les deux autres phases qui sont un intervalle de survie et puis le début d'une renaissance. Donc, c'est la défense, l'apologie d'un effondrement radical, d'un effondrement global, systématique. Et ce qui fait son intérêt, peut-être, on le verra, c'est la rencontre avec un certain esprit du temps écologiste qui a muté brusquement en quelques années et pour lequel cette théorie collapsologique est aujourd'hui une voie d'entrée presque majoritaire dans l'écologie.
Merci beaucoup. Pierre de Jouvencourt, alors sur le livre de Grégoire Chamaillou, une présentation rapide.
Oui, donc on a affaire à un nouveau livre, nouveau de 2018, de Grégoire Chamaillou, qui avait écrit en 2013 La théorie du drone, un livre sur la surveillance. Maintenant, Chamaillou s'interroge sur une généalogie du libéralisme autoritaire, comme son sous-titre l'indique. Donc La société ingouvernable, c'est un livre qui n'est non pas sur le futur comme celui de Cochet, mais sur le passé. Et il va faire une espèce d'histoire du capitalisme par les façons dont il s'est justifié depuis la Seconde Guerre mondiale environ. Donc il y a en gros deux plans dans ce récit-là. Chamaillou montre d'abord comment donc il y a eu toute sa justification de l'entreprise, de la grande entreprise comme mode d'organisation et aussi de l'actionnariat, etc. Et d'autre part, il montre comment articuler à ce premier plan, il y a tout un ensemble de stratégies qui sont pensées et développées pour lutter contre ce qui déborde en fait de ce cadre-là, donc les luttes sociales et les questions environnementales. Voilà, et donc petit à petit, on découvre, c'est plutôt une atmosphère intellectuelle qui essaie de réfléchir à tout ça du côté des managers, du côté des dirigeants, du côté des intellectuels organiques de ce monde-là. Donc pour moi, l'enjeu qui apparaît très clairement dans ce livre, c'est que en fait, il nous offre des grilles de lecture sur ce qui apparaît aujourd'hui, sur ce à quoi on va faire les activistes, à la fois sur le plan social ou environnemental aujourd'hui.
Si bien que voilà, on va en discuter, mais même s'il ne traite pas directement des questions d'écologie, voilà. En fait, le pari de cette discussion, c'est de montrer à quel point ça peut nous apporter des enseignements. Et donc, moi, il me revient le plaisir de présenter le livre de Anat Singh, Le champignon de la fin du monde, qui est un livre donc qui est paru en français en 2017, qui a eu beaucoup d'échos, beaucoup de recensions. C'est un livre qui a beaucoup circulé, qui est beaucoup discuté. Et pourquoi ? Eh bien, il a une forme très originale. C'est un récit écrit donc par une anthropologue, Anat Singh, qui est partie en fait sur les traces d'un champignon qui s'appelle le Matsutake, qui a la particularité, ce champignon, et elle en fait une figure métaphorique, de pousser particulièrement dans des forêts qui ont été dévastées. Donc c'est à la fois un être qui se confronte à la survie, ce champignon, mais c'est aussi, et c'est tout l'enjeu de ce livre, de croiser les récits de non-humains et d'humains, c'est aussi un champignon qui génère autour de lui toute une série d'activités humaines, d'humains regroupés en différents collectifs. Donc il y a aussi bien des cueilleurs qui viennent en faire commerce, soit par survie, soit pour se faire de l'argent, dans les forêts de l'Oregon qu'elle parcourt à la recherche du Matsutake. Elle rencontre des chasseurs, elle rencontre des hippies, elle rencontre des réfugiés vietnamiens, des Hmongs qui se sont réfugiés aux États-Unis après la guerre au Vietnam. Et en fait, à partir de ce fil-là, elle essaye de raconter, à travers toutes ces différentes scènes qu'elle décrit, quelles sont les conditions. En tout cas, elle ouvre des pistes, elle pose des questions sur comment survivre, comment vivre dans les ruines du capitalisme. Et donc, c'est là que ce récit prend une ampleur, en fait, qui dépasse le seul sort de ce champignon Matsutake. Alors, maintenant qu'on a fait une présentation un peu rapide des livres, l'idée, c'est vraiment de pouvoir maintenant en discuter. Et encore une fois, autour d'une question, on s'est dit, comme c'est la première émission, on explique un petit peu comment on voudrait qu'elle fonctionne. On se donne à chaque fois l'idée d'essayer d'apporter des réponses à une question matricielle qu'on se pose le long de l'émission. Cette fois-ci, la question qu'on a eu envie de poser, c'est comment agir dans un monde qu'on effondre ? Alors, pas l'effondrement, mais un monde qu'on effondre, c'est-à-dire avec en posant toute la question de notre responsabilité, alors en tant que civilisation, en tant que système politique, en tant qu'être humain. On va en discuter dans l'émission. Mais si on part, Maxime Chédin, du livre de Yves Cochet, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment ça résonne avec cette question du monde qu'on effondre ?
On est en plein dans cette question, parce que si on dit monde qu'on effondre et non pas monde qui s'effondre, c'est justement pour insister sur le fait que parler d'effondrement ou de monde qui s'effondre, ça peut générer une invisibilisation ou une occultation des acteurs et des intentions politiques qui génèrent l'effondrement. Et c'est notamment un des grands sujets de débat autour de la collapsologie, de savoir si elle ne promeut pas une vision de l'effondrement qui serait dépolitisante ou qui masquerait les causes, les acteurs politiques de l'effondrement. Alors peut-être que ce qui serait intéressant pour commencer à parler du livre d'Yves Cochet, ce serait d'abord d'essayer de montrer ce qu'il y a l'apport positif de ce livre et plus globalement du courant de la collapsologie dans laquelle il s'inscrit, puisque Yves Cochet est le fondateur, un des cofondateurs de l'Institut Momentum, qui est un des premiers collectifs en France qui a propagé cette théorie de la collapsologie avant le livre de Pablo Servigne. Et je pense que c'est peut-être intéressant de d'abord rappeler que ce courant effondriste ou collapsologique, il a produit en quelques années une transformation importante des consciences et du militantisme climat. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à Jean-Pierre Dupuis, par exemple, un autre auteur qui avait traité de la catastrophe, le catastrophisme, c'était essentiellement une théorie intellectuelle et c'était surtout une méthode, une espèce de ruse de la raison qui était destinée à ancrer dans nos vies, dans nos affects, le spectre de la catastrophe pour l'éviter. Au final, c'était le catastrophisme, c'était une méthode pour éviter la catastrophe, prendre en compte aujourd'hui les effets de la catastrophe pour ne pas qu'elle survienne demain. Donc il n'y avait pas vraiment d'incompatibilité avec les idées de crise écologique, de transition écologique. Or, ce qui a changé avec l'Institut Momentum, puis avec Pablo Servigne, c'est que l'aggravation des événements climatiques, des constats, des alertes scientifiques depuis quelques années, en tout cas depuis 5 ans, a conduit à abandonner complètement ce résidu d'optimisme qu'il y avait encore dans le catastrophisme de Jean-Pierre Dupuis, pour produire une nouvelle conscience. Et le cœur de cette conscience, de cette nouvelle conscience collapsologique, c'est qu'on acte que les dés sont jetés, qu'il y a en quelque sorte des bouleversements majeurs qui sont en cours et qui ne peuvent plus être stoppés du tout.
D'où, on commençait l'émission en citant l'occupation actuelle, on ne sait pas combien de temps elle va durer, de extinction-rébellion, on part de l'idée d'une extinction, extinction des espèces.
Ouais, exactement. Et donc,
l'espèce est de l'humanité.
Et de l'humanité. Mais c'est-à-dire, là pour le coup, on part du constat de l'idée d'une disparition. C'est intégré par le corps politique.
Oui, et donc aussi d'un abandon de ce qui se présentait encore il y a quelques années dans le militantisme écologique comme une écologie positive, une écologie joyeuse, qui voulait pas nous déprimer, qui voulait pas nous accabler avec des affects trop tristes. Un mouvement comme Extinction Rébellion, son slogan, c'est l'espoir meurt, l'action commence. Et donc cette idée que le désespoir qui nous vient du savoir scientifique n'est plus un frein à l'action. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans ce que la collapsologie a apporté. Et deuxième point, moi, qui me semble assez positif dans l'arrivée sur la scène politique de la collapsologie, c'est le fait que l'effondrisme, la collapsologie, c'est aujourd'hui de plus en plus souvent pour beaucoup de gens, l'attracteur ou le convertisseur qui permet de passer à une conscience écologique beaucoup plus radicale et très vite, et qui permet aussi de prendre conscience que des solutions type croissance verte ou des technologies qui pourraient nous permettre de sortir de la crise écologique ne sont pas viables. Et donc la collapsologie peut aussi avoir cet effet positif de nous permettre de permettre à certains de basculer beaucoup plus vite dans une écologie anti-industrielle, une écologie non gouvernementale. Donc je pense que sa dimension positive, on va venir aux critiques après, mais je pense que sa dimension positive, elle est quand même considérable.
Alors Pierre de Jouvencourt, néanmoins, il y a toute une série de critiques qu'on peut apporter à la fois à cette notion de collapsologie, mais aussi au livre d'Yves Cochet. Est-ce que vous voulez commencer à dérouler certaines de ces critiques?
Ça fait en fait depuis quelques années, il y a déjà des critiques qui circulent sur la collapsologie. Comme Maxime l'a dit un petit peu, c'est une des critiques les plus importantes, c'est l'idée que c'est une catégorie, une idée qui n'est pas très politique, quoi. Elle masque en fait les acteurs qui ont provoqué ou dont on suspecte fortement qu'ils ont provoqué la situation dans laquelle on est. Par exemple, les acteurs économiques, les acteurs politiques, etc. Donc, en effaçant ce récit-là, on n'accède plus aux moyens de compréhension de ce qui nous arrive. Et c'est, disons, une voie pour accepter cet événement sans trouver forcément d'accroche sur le présent pour répondre à cela. Et un deuxième problème, c'est l'idée que l'effondrement va nous libérer de ce qui nous opprime aujourd'hui, du monde industriel, de la pollution, et même du changement climatique, etc.
C'est ça, il y a une sorte de renversement presque, parce que l'effondrement, a priori, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est un horizon apocalyptique. Sauf que là, effectivement, ça se retrouve assez fortement dans le livre d'Yves Cochet, mais vous pouvez nous expliquer comment. Quasiment, en fait, l'effondrement dans ce que Yves Cochet en décrit deviendrait un moment presque de libération de l'humanité vis-à-vis des maux qui l'accablent. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples?
Déjà, dans l'effondrement de Yves Cochet, qui est, somme toute, un film absolument catastrophique au sens esthétique, c'est-à-dire que là, pour Yves Cochet, il y aura une perte de la moitié de la population, etc. Finalement, ce qui apparaît dans la Renaissance, donc dans le troisième temps que propose Yves Cochet, je crois que c'est daté en environ 2050, c'est un retour à la permaculture généralisée, une transformation vers ce qu'il appelle un biorégionalisme, c'est-à-dire des sociétés à plus petites échelles, avec des échanges plus doux, etc.
Ça, c'est pas mal.
Ça fait un peu envie, oui. Mais on se demande, qu'est-ce qui permet ça? Est-ce que l'effondrement va vraiment entraîner ça? Est-ce que la causalité est très claire? En fait, pas du tout. Rien ne peut nous faire dire que ça va effectivement se passer comme ça, en fait. L'histoire nous montre que plutôt qu'il y a peu de chances, en fait, que ça se passe bien.
Oui, et puis c'est l'effondrement qui va faire ça à notre place, quoi, en quelque sorte. Il y a quand même cette idée que, je pense, elle n'est pas du tout formulée telle quelle par Yves Cochet, mais il y a quand même une espèce d'attente purificatrice, quelque peu millénariste. Il se définit lui-même, en certains endroits, comme un millénariste laïque, que l'effondrement va permettre la renaissance et que... Il n'est pas souhaitable, mais finalement, il va nous permettre de nous débarrasser d'un mal politique dont on n'arrive pas à se défaire nous-mêmes politiquement. Donc il y a une attente, une forme d'attente passive de l'effondrement qui vient et qui peut faire penser à ce que Walter Benjamin disait à propos des communistes orthodoxes de son époque, à savoir que si on définit la révolution comme un train qui va toujours de l'avant... du coup, il n'y a plus qu'à attendre que la locomotive des révolutions passe. Et à cela, Benjamin disait que l'effort révolutionnaire, au contraire, c'est d'activer les freins d'urgence et de faire dérailler la locomotive parce qu'elle nous entraîne vers l'abîme. Ouais. Et cette perspective, elle est absente. Enfin, cette perspective de résistance, de combat, de lutte, elle est absente dans la collapsologie, en tout cas dans ce livre d'Yves Cochet. Et comment est-ce que la purification ou comment est-ce que la renaissance est rendue possible? Par deux choses. L'effondrement pour Yves Cochet, c'est le fait que c'est sa définition qu'il donne, qui est devenue classique, c'est le processus au terme duquel les besoins de base, à savoir l'eau, l'alimentation, les transports, la sécurité, ne seront plus assurés à la population par des services encadrés par la loi. Donc en fait, c'est l'effondrement de l'État, c'est l'effondrement après l'État aussi de la machine étatico-industrielle qui ne peut pas subvenir sans l'État. Or, cet effondrement de la machine industrielle, on en a besoin en quelque sorte pour sauver la planète. Donc finalement, il y a ce retournement où cet effondrement qui est quelque chose d'absolument effroyable devient inconsciemment quelque chose de souhaitable. Et l'autre point dont on voulait parler aussi, c'est la question de l'effondrement de la population humaine, parce que l'autre effet de l'effondrement, selon Yves Cochet, c'est le fait que la population humaine va s'effondrer en l'espace de 15 ans, entre 2020 et 2035, qu'on passera de 8 milliards d'humains aujourd'hui, c'est ça je crois, ou 9 milliards, à 3 milliards et demi, enfin que la population diminuera de plus de moitié en raison des guerres, des famines et des épidémies, parce que on va retomber dans une espèce d'état de nature effroyable qui produira une sorte de sélection naturelle comparable à la grande peste du XIVe siècle dont il parle. Et là aussi, c'est affreux, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que une des causes de l'effondrement écologique, c'est la surpopulation. Yves Cochet assume un certain néo-malthusianisme. Et donc, si le problème, c'est la surpopulation, un effondrement qui va produire une extinction de la moitié de la population, c'est certes tragique, horrible, il le dit, mais au final, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases.
Et un dernier point qui est quand même, je trouve, assez problématique, c'est que le portrait donc, qui fait de l'effondrement, au fond, c'est la destruction des infrastructures auxquelles nous, on est habitués en tant que résidents des pays occidentaux, avoir l'eau courante, l'électricité courante et tout un tas d'autres services. Or, Cochet nous dit par ailleurs que les pays les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas accès à ces infrastructures, seront les moins touchés par cet effondrement. Donc déjà, la catégorie d'effondrement, c'est un peu une catégorie d'occidental qui perd en fait ses propres infrastructures, mais effectivement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout accès, qui n'ont jamais eu ou en tout cas depuis longtemps accès à ces infrastructures ou ces services. Et du coup il y a aussi la question historique, c'est-à-dire que l'effondrement dont il parle, c'est un effondrement qu'ont déjà subi beaucoup de populations lors de tout un tas de processus historiques comme la col- colonisation, par exemple.
C'est l'occultation des effondrements du passé, des effondrements qui ont déjà eu lieu et qui ont eu lieu en dehors de l'Occident et souvent provoqués par l'Occident.
C'est un bon point de transition, je pense, pour passer au livre de Tsing, Le champignon de la fin du monde. Pourquoi est-ce que c'est un bon point de transition? Parce que, moi, il me semble, en tout cas, je le mets au pot de cette conversation commune, qu'un des grands intérêts du livre d'Anna Tsing, c'est précisément de s'inscrire dans le présent et dans un tissu historique très incarné, très clair, très posé. C'est-à-dire que toute cette dimension critiquable de la collapsologie et donc du livre d'Yves Cochet en particulier, que vous avez tous les deux décrit, c'est-à-dire ça, quand même cette projection dans un avenir très déterminé, très détaillé, très décrit, mais qui est quand même fantasmé, qui est projeté dans un ailleurs, qui quelque part mécaniquement entraîne une dépolitisation, parce que on se projette dans quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Elle, au contraire, c'est hyper ancré, c'est maintenant, on est dans les forêts de l'Oregon avec elle, avec tous les personnages qu'elle rencontre, et elle a une position, je trouve, très humble, très modeste, de les écouter, de les donner à entendre, sans les juger, y compris les chasseurs un peu survivalistes qu'elle rencontre dans la forêt, qu'elle présente sans regard de jugement, sans aucun surplomb de chercheuse du tout. Au contraire, elle est vraiment avec eux. Et ensuite, la manière dont elle tisse son récit, entremêlé donc de ces descriptions de scènes forestières, on a plein de descriptions de se perdre dans la forêt, les pieds dans l'humus, les arbres, les racines, etc. Et après, on a aussi de longues discussions, de longues descriptions des marchés au Japon, le marché du Matsutake. Donc, je veux dire, on est dans un regard très incarné, très humain, très présent. Et ça, il me semble que politiquement, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, c'est-à-dire d'être capable de à la fois concilier la compréhension des effets à grande échelle des dérèglements climatiques et des différents effondrements d'espèces auxquels aujourd'hui on assiste, en fait, ou qu'on voit pas forcément, mais en tout cas qu'on connaît, dont on est les contemporains. Et ben, concilier ces projections à grande échelle temporelle avec nos enjeux d'aujourd'hui. Et elle a réussi parfaitement à tenir ces deux temporalités-là. Elle a toute une réflexion sur la question des échelles, où justement elle dit peut-être qu'une des choses qui a causé un peu la perdition quelque part de nos civilisations, c'est ce qu'elle appelle la scalabilité, c'est-à-dire le fait qu'on a accepté l'idée que c'est normal finalement, voire que c'est bien, que c'est plutôt bien qu'on puisse produire à grande échelle la même chose qu'on a produit à toute petite échelle. Donc c'est l'idée de la plantation coloniale qui est devenue comme ça le modèle de l'entreprise et qui a été au fond une matrice de la mondialisation. Enfin, elle développe un peu tout ça. Et moi, je trouve que toutes ces pistes, toutes ces réflexions sont très très utiles et renouvellent aussi un imaginaire écologiste en le nourrissant de ces histoires parfois complètement en dehors de l'Occident par rapport à un courant, et je finis là-dessus, d'écologie en tout cas en France qui est souvent assez européano-centré. Je sais pas qui veut peut-être porter une critique un peu plus forte.
Mais c'est vrai qu'avant la critique, on est quand même assez émerveillé en lisant ce livre par sa richesse, l'extraordinaire diversité des thèmes qu'elle parvient à assembler, de la critique du capitalisme à la manière dont des champignons peuvent reconstituer des forêts dévastées. C'est vrai que c'est un livre assez prodigieusement foisonnant. Et ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'elle part des catastrophes passées et présentes du capitalisme, parce que les travailleurs, les cueilleurs de champignons des forêts de l'Oregon qui ramassent ces fameux Matsutake, ce sont des gens qui sont arrivés dans ces forêts parce que leur monde se sont effondrés. Et se sont effondrés à la suite de guerres impérialistes ou capitalistes, la guerre du Vietnam, c'est des réfugiés laotiens, cambodgiens, ou alors des personnes qui ont dû fuir, ont dû s'échapper de l'effondrement industriel, c'est des travailleurs pauvres américains. Le grand intérêt de ce livre, c'est cette idée d'une rencontre, d'une union possible entre les humains et les non-humains, qui peuvent, les humains, donc c'est eux, et les non-humains en l'occurrence, c'est ce fameux champignon qui a la particularité de ne pousser que dans des forêts qui ont été ravagées par l'industrie humaine et qui ont acquis un prix extraordinaire sur le marché, ça aussi il faut le dire pour bien comprendre, c'est un produit de luxe en fait ce Matsutake, donc on peut gagner assez bien bien sa vie en le récoltant et en le vendant. Et en fait, comment ces humains et non-humains peuvent former des collectifs qui sont dans les marges du capitalisme et qui arrivent à survivre à la lisière du capitalisme, à la fois un pied dedans parce que le matutake est vendu et ensuite incorporé dans une grande chaîne d'échanges capitalistes qui va jusqu'au Japon, et en même temps à la marge parce qu'ils vivent une sorte de vie dans la forêt d'humains qui sont plus libres que les salariés des usines. Donc tout ça, ça fait la richesse du livre et aussi cette idée d'une alliance politique entre les humains et les non-humains pour résister à l'enfermement ou l'embrigadement dans la machinerie capitaliste.
Et en même temps, en effet, il y a tout ça qui est décrit, je suis d'accord avec vous.
Avec les éloges.
Vous, tout à fait. Mais du coup, il y a quand même j'ai conservé un doute, en fait, sur ce livre en le reprenant, etc. C'est qu'elle décrit donc tout ce que vous racontez, et notamment des formes de précarité, ce que nous on appellerait des précarités, et qu'elle lui donne à ce terme un autre sens, comme inquiétude par rapport à nos attachements au monde. Mais là, ce qui est un petit peu, je trouve, le doute que j'ai eu, c'est qu'au fond, la description prend beaucoup de place et elle ne nous offre pas, en tant que telle, des moyens de répondre à ces situations. Et les situations qu'elle décrit, notamment, je pense, à ce marché qu'il y a donc avec les personnes qui récoltent les champignons et qui les vendent au mieux-disant, etc., elle l'exprime, par exemple, comme l'exercice profond d'une liberté. Et voilà, il y a tout un ensemble de choses qui sont présentées comme ça, alors avec un regard d'anthropologue, donc elle respecte ce que les acteurs expriment, etc. Mais en même temps, il y a pas la critique de ce que ça veut dire nécessairement cette liberté, parce que par ailleurs, elle montre très bien, et c'est ça un apport aussi, je trouve, du livre, c'est comment le capitalisme, de plus en plus, enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris, va reposer sur l'exploitation de formes d'existence qui ne sont pas dans le capitalisme. En fait. Donc ça c'est un peu dans la continuité des travaux en cours, par exemple par Jason Moore, l'historien éco-marxiste, c'est-à-dire que il y a une création, enfin il y a une valorisation, une appropriation de la valeur produite aux marges du capitalisme, là où il n'y est pas. Et Anatine, décrivant ça, finalement, ne pose pas clairement, ne problématise pas clairement en fait ce point-là, dans la mesure où elle ne décrit pas ce qui, je veux dire, du point de vue des valeurs, ce que ça veut dire, et notamment ce que ça veut dire pour ce qui se présente à nous maintenant, quoi.
En fait, ce qui manque, c'est la contestation.
Oui,
c'est-à-dire que la question de la politique, du rapport de force, de la contestation est quasiment absente en fait du livre d'Anna Tsing, et si bien que ça lui a été reproché beaucoup. Et même, moi, je peux partager une discussion que j'ai eue avec elle l'année dernière lors d'une rencontre à Paris où elle était venue présenter son livre et où elle partageait sa propre stupéfaction à la découverte des réactions que son livre avait suscitées, et elle expliquait que elle avait été malheureuse de se rendre compte qu'une partie de ses lectrices et lecteurs avaient compris son livre comme une forme de résignation, d'invitation à la résignation.
C'est un étonnement qui est lui-même assez étonnant, parce que j'ai commencé par des considérations élogieuses, mais c'est vrai que c'est un livre qui est terriblement ambigu, terriblement ambivalent.
Elle dit que non. Donc, alors voilà.
Moi, je le trouve terriblement violent parce que je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre. En fait, il y a l'idée la plus dérangeante du livre, c'est qu'on aurait toujours un pied dedans et un pied dehors du capitalisme. On n'a pas besoin de chercher à sortir du capitalisme parce qu'on en est déjà sorti. Parce que le capitalisme n'est pas capable de nous capturer entièrement. En fait, le capitalisme serait incapable de tout intégrer dans sa machine. Il laisserait toujours sur ses bords, sur ses contours, sur ses marges, une dimension de vie qu'il ne pourrait jamais complètement intégrer. Donc finalement, il n'y aurait pas tant à s'inquiéter que ça, parce que le capitalisme n'arrivera jamais à devenir totalisant. Et donc, le résultat, c'est qu'il suffit de vivre dans les marges du capitalisme et que, on peut y vivre une existence dans les ruines qui peut devenir un petit peu plus heureuse si on parvient à céder d'alliance avec les non-humains. Je voudrais juste lire un passage qui me semble extraordinairement significatif, qui est au début du chapitre 10, page 203. Elle écrit: un collègue qui étudie les peuples et les forêts de Bornéo m'a raconté l'histoire suivante. La communauté avec laquelle il travaillait vivait au cœur d'une grande forêt. Un jour, une entreprise forestière a débarqué et a coupé les arbres. Quand il n'y eut plus aucun arbre, l'entreprise quitta les lieux en abandonnant un tas de machines en voie de désintégration. Les résidents ne pouvaient plus vivre ni de la forêt, ni comme travailleurs de l'entreprise. Les deux avaient disparu. Ils prirent les machines et vendirent le métal à des ferrailleurs. Et elle dit, elle commente, cette histoire renferme pour moi l'ambivalence des pratiques de récupération, ce qu'elle appelle l'accumulation par captation. D'un côté, je suis pleine d'admiration devant ces gens qui ont imaginé des solutions de rechange pour survivre malgré la disparition de leur forêt. D'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une certaine inquiétude quant à savoir ce qui arrivera lorsqu'il n'y aura plus de ferraille à vendre. Et en fait, tout au long du livre, on a le sentiment que c'est au fond ce à quoi elle se résigne, à vendre la ferraille que nous laisseront les capitalistes une fois qu'ils auront coupé tous les arbres de la forêt. Donc c'est vrai que la dimension de lutte, de contestation manque. Et du coup, ça donne envie d'aller vers le livre de Grégoire Chamaillou pour ça. Merci.
Alors, Pierre.
Oui. Donc le livre, pour moi, est... je trouve que c'est un livre qui devrait être lu par celles et ceux qui agissent aujourd'hui.
Pourquoi
ce livre, donc ça s'appelle « La société ingouvernable ». Et il convient, je trouve que ce titre convient tout à fait et ça devrait être lu par toutes celles et ceux qui sont dans un devenir ingouvernable. En fait, ce que je trouve... Alors déjà, ce qu'il n'y a pas dans ce livre, c'est une analyse théorique ou économique du capitalisme, etc. Ce que fait Chamaillou, et je trouve que c'est une forme très intéressante, c'est qu'il construit toute son histoire en citant énormément des acteurs qui sont du côté, on va dire, pour faire les choses un peu simplement, qui sont du côté du capitalisme. Ouais. Donc on voit vraiment comment tout ce monde-là, qui est très divers, hein, il y a des penseurs, il y a des économistes, il y a des gens qui font des tribunes, il y a des managers, etc. Comment tout ça pense et comment tout ça se pose des problèmes et comment ça tente de répondre à ces problèmes. Alors, il y a pas mal d'exemples. Par exemple, on voit que très tôt, ces gens-là voient très bien que l'entreprise est le premier point qui est très important, l'entreprise est un acteur politique. C'est pas que de l'économie, c'est un acteur politique. Et donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il doit endosser des responsabilités comme acteur politique, parce qu'il a une influence sur la société. Donc, à l'époque, on se dit, ah oui, du coup... L'entreprise doit avoir des responsabilités. Mais du coup, il y a aussi la lucidité de dire, cet acteur ne pourra jamais être démocratique en lui-même. C'est-à-dire l'entreprise, dans son fonctionnement, sera toujours autoritaire. Du coup, il y a toute une réflexion pour justifier, en fait, d'une part, de la caractéristique autocratique de l'entreprise, et d'autre part, de justifier d'une responsabilité publique tout en n'allant pas jusqu'au bout, en fait, de cette responsabilité. Un deuxième point que je trouve vraiment très fort, c'est qu'en fait, dans ce livre, quand on va le lire, et ça, c'est le côté vraiment très pratique, c'est qu'on va avoir tout un ensemble de stratégies, je dirais presque contre-insurrectionnelles, contre les militants. Alors que là, il y a un passage vraiment remarquable au chapitre 15, où Chamaillou va décrire, en fait, comment gérer les mouvements de contestation. Et donc, en fait, il nous montre que comment les managers estiment qu'il faut trier les activistes entre les radicaux, ceux de milieu, les idéalistes qu'on peut faire basculer d'un côté qui nous arrange, et les pragmatiques avec lesquels, finalement, on va pouvoir entamer ce qu'ils estiment être un dialogue, quoi. Ouais. Et comment, par le dialogue très long,
très important, oui.
Et qui dure sur le temps, etc., permet d'intégrer c'est possible d'intégrer cette dernière catégorie dans des institutions en partenariat avec l'entreprise, etc. Et typiquement, ce genre d'exemple, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a un autre exemple sur la question du recyclage. On voit, Chamaillou raconte comment est arrivée l'idée de conditionnement jetable, la canette jetable, etc., avec la promotion dans les publicités de sa praticité, parce qu'elle peut être jetée comme ça dans la nature, et voilà, c'est beaucoup plus pratique que de ramener sa bouteille consignée à la consigne. Et ce que ça provoque, ça, c'est une certaine indignation avec les mouvements écologistes à partir des années 60-70. Et donc la réponse à ça, c'est de dire, déjà à cette époque, ça va être de communiquer sur la responsabilité des entreprises, de dire, nous, on est responsables, on va inviter les consommateurs à aller nettoyer les espaces naturels, etc. Et c'est, encore une fois, c'est quelque chose un discours qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Il y a des associations aujourd'hui qui sont subventionnées par des gens comme Pepsi, Coca-Cola pour aller nettoyer les plages, etc. Voilà. Donc il y a ce que je trouve, à mon avis, la lecture de cet ouvrage est, disons, extrêmement intéressante, au moins pour cette raison-là, c'est qu'on a comme ça une grille de lecture de toutes les stratégies ou qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs comme des stratégies au début, mais en lisant ce livre, ça nous permet d'y voir un peu plus clair et de savoir un petit peu, quels sont les... ce à quoi on a affaire finalement.
À quoi on s'affronte. Hein. Ouais. Maxime Chédin, quels enseignements on peut en tirer dans notre contexte contemporain de cette documentation historique précise
que fait J'avoue, je partage l'enthousiasme de Pierre. Je pense que c'est un des livres les plus importants qui a été publié l'année dernière. Et c'est vraiment un livre qui est à mettre entre les mains de tous les militants, de tous les activistes, qu'ils soient militants pour des combats ou des causes sociales ou militants pour le climat. Et on voudrait que les militants d'Alternatiba, d'ANV, COP21, d'Extinction Rebellion, de Greenpeace, des Amis de la Terre, lisent ce livre, ou s'ils n'ont pas le temps de lire le livre, je me permets de leur recommander trois chapitres qui me semblent vraiment essentiels, et c'est ceux dont Pierre a parlé. Le chapitre 15 qui fait en fait une analyse des stratégies de contre-activisme des entreprises. Comment est-ce qu'une entreprise ou des grandes multinationales gèrent la contestation émanant des sociétés civiles? Et il prend comme exemple le premier grand boycott de la société civile qui était celui de Nestlé dans les années 70 parce que le lait maternel de Nestlé provoquait des maladies en Afrique, etc. Et en fait, il montre la détermination, le cynisme absolu de ces dirigeants. Et je pense que ce qu'il y a de très important dans tout ça, c'est ce que nous fait comprendre le sous-titre du livre. Ça s'appelle « Une généalogie du libéralisme autoritaire ». C'est en fait de comprendre que, enfin, de réintroduire la notion d'hostilité dont certains militants écologistes ou climat ne veulent plus entendre parler. On parle beaucoup d'écologie du consensus, de l'idée que l'écologie en fait touche un intérêt qui serait commun à tous et que donc on devrait réussir à s'entendre, à trouver un intérêt général sur l'écologie. Et en fait, ce que nous montre ce livre, c'est que les grandes entreprises sont en fait animées par une logique de fond qui anime l'entreprise capitaliste, à savoir enrôler, gouverner des humains et des non-humains, Sacha Maillot n'en parle pas, mais c'est aussi important, c'est Jason Moore, pour accroître les profits à l'infini, quelles que soient les oppositions auxquelles elles ont affaire. Et donc, cette logique-là, elle n'est pas réformable. Et donc là, on arrive à un point de dissensus, à un point de conflit, qui fait qu'il n'y a pas de réforme de l'entreprise capitaliste possible. Et il en va de même pour l'État, puisque le libéralisme autoritaire, c'est aussi l'idée que, en fait, l'État met son pouvoir au service de la privatisation pour renforcer la logique de l'entreprise. Et donc, je pense qu'il serait très important pour le militantisme écologique et le militantisme climat aujourd'hui de prendre conscience du fait que, très probablement, on n'arrivera pas à s'entendre avec les structures étatiques et les structures entrepreneuriales telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Donc, il y a un conflit qui est indépassable et qu'il faut assumer.
Pierre ?
Oui, alors c'est ton dernier point. C'est-à-dire que, en fait, la dernière partie du livre, ça fait même froid dans le dos. C'est-à-dire que le sous-titre, hein, je rappelle, c'est une généalogie du libéralisme autoritaire. Donc, ce qu'on a dit sur les stratégies de gouvernement, des critiques, c'est une chose. Mais là, à la fin, il y a carrément le projet qui est formulé donc par ce monde-là de limiter la démocratie, en fait, pour illimiter ou rendre complètement illimité la liberté économique. Et ça, c'est très explicite. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvrirait aujourd'hui. C'est un projet politique. C'est un projet politique organisé. Voilà, il s'agit de limiter tout un ensemble d'interventions, de régulations, de possibilités de régulation de l'État, notamment. C'est quelque chose de très important. Et ça passe pas... Et ça passe aussi par, disons, ce qu'on appelle le retrait de l'État, c'est-à-dire une politique de destruction des services publics, ou en tout cas de leur privatisation. Et ce que Chamaillou montre assez intelligemment, c'est que c'est moins un retrait de l'État qu'une redistribution des pouvoirs de l'État. C'est-à-dire que il y a un retrait sur tout un ensemble de services comme l'éducation, l'énergie, etc., mais un investissement dans le pouvoir de contrôle et dans le pouvoir policier, au final. Donc c'est pour ça que Chamaillou parle de libéralisme autoritaire. C'est cette forme politique qui réoriente ses pouvoirs vers le contrôle de la société en vue d'un libéralisme économique qui, au final, trouve tout un ensemble de dispositifs pour se déresponsabiliser de toutes ces actions.
C'est saisissant, hein, parce que libéralisme autoritaire et tout ce que décrit Grégoire Chamaillou se passe quand même plutôt aux États-Unis dans les années 70 et 80, mais en fait, à vous entendre tous les deux à la fin de la discussion, on a l'impression que vous parlez de la France
en
2019. Non,
on est en plein dedans, il y a aucune raison.
On voit à quel point ça résonne complètement avec notre situation, y compris cette question du dialogue de démocratie participative, et on voit comment c'est à l'œuvre aujourd'hui dans le projet, enfin dans la Convention citoyenne pour le climat qui vient de se mettre en place avec l'idée de créer une assemblée d'où sortiraient des solutions consensuelles acceptées par tous. Là, pour le coup, si on essaie de tirer quelques enseignements de la lecture du livre de Grégoire Chamaillou, on va devoir le faire très vite parce que c'est la fin de l'émission. Lui, il est plutôt sur une position de défense de la rupture, finalement. La rupture vis-à-vis de ce système, parce qu'il n'y a pas de négociation possible avec ces entreprises et avec cet État libéral autoritaire quand on défend une vision du monde solidaire et, nous, on dirait écologiste.
Oui, et donc il y a vraiment l'ambition de comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment nous en sommes arrivés au point où on en est aujourd'hui, que tout ça a commencé dans les années 70, et de comprendre que on a en face de nous des acteurs politiques et économiques qui ont des intérêts auxquels ils ne renonceront pas, et des stratégies extrêmement pensées qui ont été élaborées dans les années 70 et mis en place à partir de la fin des années 70 et qui aujourd'hui trouvent leur pleine application, des stratégies face auxquelles ceux qui veulent rompre avec l'ordre établi, que nous devons penser comme des stratégies face auxquelles il faut inventer à notre tour des formes de contre-insurrection.
Écoutez, on va s'arrêter là sur cette idée de la contre-insurrection. Donc, comment agir dans un monde qu'on effondre ? Première petite piste d'idées et de propositions pratiques avec ces livres. Merci beaucoup à tous les deux, Maxime Chédin et Pierre de Jouvencourt, de vous être prêtés à ce jeu, un peu d'équilibriste de discussion. Et on peut vous donner rendez-vous pour notre prochaine émission Mediapart et Revue Terrestre, et qui sera consacrée à la question de l'écologie décoloniale.